de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Bonjour à tous pour ce nouveau Bouillon de Chartreuse placé sous le signe des droits de l'homme. En effet, le 10 décembre 1948, peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre depuis cette date. Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues, continue d'être pour chacun d'entre nous une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Et le 10 décembre 2018 marquera donc les 70 ans de cette déclaration. Pour l'occasion, deux associations iséroises, Mosaïque de Grenoble et la compagnie vocale du Fontanil Cornillon, ont créé un spectacle chanté sur les 30 articles fondateurs de cette déclaration. Ce spectacle sera joué pour la dernière fois de l'année à Saint-Laurent-du-Pont, le 15 décembre prochain. Radio Couleur Chartreuse a reçu les représentants des deux associations et vous propose donc de partager avec eux cette formidable aventure. Nous recevons tout d'abord les représentants de l'association Mosaïque, les producteurs et arrangeurs musicaux du spectacle. Alors, pour parler de ce 70e anniversaire des droits de l'homme, nous recevons des acteurs, des bénévoles de l'association Mosaïque, Judith et Stéphane Refugi, qui sont respectivement chanteuses et chanteurs-compositeurs, Claude Belmude, bassiste et partenaire technique. Bonjour à tous.
Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs.
Alors, Mosaïque est un groupe de musique grenoblois qui est à l'origine, avec la compagnie vocale, de ce projet de spectacle, Conquest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce spectacle ? On va donner le micro à Judith.
Oui, ça s'est passé d'une façon très, très, très marrante, parce que Stéphane, mon époux, il avait plein de musique sur son piano et il savait pas quoi mettre comme parole sur cette musique. Et puis, en pleine nuit, à 3h du matin, il me réveille. Oui, chérie, j'ai trouvé, ça y est, je vais mettre les déclarations universelles des droits de l'homme sur toute cette musique que j'ai sur mon piano. Et bien sûr, en pleine nuit, je lui ai dit de se calmer, c'est bien chérie, va dormir de nouveau. Et puis finalement, le lendemain matin, il a vraiment attaqué le travail pendant quelques années d'écriture, enfin 2 ans d'écriture, au niveau au niveau musical. Voilà, je vous laisse... C'est la parole.
Stéphane. Alors, avant de donner la parole à Stéphane, je précise, comme les auditeurs l'auront compris, que Judith et Stéphane sont mari et femme, puisqu'ils étaient dans le même lit, en l'occurrence. Et je précise aussi que ce flash que Stéphane a eu en pleine nuit, ça s'est passé, si j'ai bien suivi le film, en 2014. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2018. 2018 marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'est basé quand même pour partie sur celle de 1789. Et c'est pas du tout un hasard si vous avez programmé ce spectacle cette année en particulier.
En fait, non. Donc effectivement, l'idée est venue en 2014. Après, il a fallu faire tout le temps d'écriture musicale, de création des arrangements et d'écriture pour l'orchestre également, puisque dans l'idée de ce projet, je souhaitais qu'il y avait un orchestre symphonique qui participe à ce spectacle, et donc il fallait écrire l'orchestration. Donc ça a demandé un certain temps, 2 ans et demi d'écriture. Pour les chœurs également, je souhaitais qu'il y ait des chœurs mixtes, hein, hommes et femmes, et donc il fallait écrire toutes ces parties là ça nous a ramené facilement à fin 2000 2016, je dirais. Et puis donc 2018, c'était le 70e, la 70e année de la déclaration. Donc on s'est dit c'était vraiment une date très porteuse. Et on a commencé les répétitions à ce moment-là. Donc on a pris contact avec la compagnie vocale grâce à Claude.
D'accord. Voilà. Donc les répétitions se sont faites en 2017, si je comprends bien.
Ça
d'accord.
a commencé en 2017.
Et est-ce qu'on peut rappeler, avant de passer la parole à Claude, ce qu'est cette déclaration universelle qui a été faite en 1948, après la guerre ?
Donc voilà, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, il y a eu la création de l'ONU. Et pour pas que se perpétue ou que récidive enfin, les atrocités qui se sont déroulées pendant cette Seconde Guerre mondiale, donc les Nations Unies ont souhaité rédiger un texte pour établir les droits fondamentaux de l'être humain, aussi bien sociaux, culturels, économiques. Et donc, ils ont eu 3 ans pour rédiger cette déclaration qu'ils ont signée le 10 décembre 1948.
Très bien. Merci Stéphane.
Merci.
Alors, ces droits de l'homme, bon, il y a la déclaration d'un côté, Claude, et puis il y a quand même certains pays et certains humains qui doivent toujours conquérir à la force du poignet ces fameux droits de l'homme. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ?
Absolument. Voilà, la remarque, c'est parmi les acteurs qui ont rejoint le projet, notamment les amateurs et les bénévoles de la compagnie vocale. Ils disaient, mais en découvrant le texte, en le chantant, l'apprenant, l'étudiant, ils ont dit, mais enfin, ce texte, il a été signé par les États-Unis. Ben oui, à l'ONU, il a été signé. Et puis au fil des différents articles, parce qu'ils les découvraient chaque semaine en les travaillant, ils disaient, mais la France aussi, et ils l'ont signé, parce que là, quand on lit ça, il y a certains articles, en fait, qui ne sont pas appliqués en ce moment en France et dans les États signataires. Et on se dit que finalement, peut-être que les États ont intérêt à ne pas le faire connaître, quoi. C'est vrai que c'est pas étudié à l'école, voilà, alors que c'est quelque chose qui est fort, qui a été signé après-guerre et comment dire, négocié pendant 3 ans par l'ensemble
des pays signataires
de l'ONU, quoi.
Alors justement, une petite anecdote, à l'époque, ouais. entre 1945 et 1948, ça a mis du temps aussi pour s'élaborer, parce que justement, il y avait les États-Unis signataires et la Russie. Mmh. Et donc, il y a un article qui parle de la propriété. Donc imaginez pour les Russes, à l'époque, l'URSS...
Ouais.
Ce que voulait dire la propriété pour eux, alors qu'on était dans le communisme, c'était pas facile de signer... d'accepter qu'il y ait un article sur le droit à la propriété. Donc ça aussi, à l'époque, eu des débats. Hein. Donc effectivement, quand on relit les articles maintenant, qu'on voit ce qui se passe dans beaucoup de pays, presque dans le monde entier, on se dit, mais on est très loin de ce qui a été écrit, vraiment très très loin.
Ouais. Oui, il y a la théorie et la pratique.
Exactement.
Comme on dit. Combien de pays ont signé cette Déclaration universelle des droits de l'homme ? Est-ce que vous le savez ? Ah, c'est une colle, on dirait.
Je crois de mémoire, mais alors là, il faudra le vérifier quand même. Hein, mais ça doit être, je crois, 56 pays. Mais c'est quand même un chiffre à vérifier.
D'accord.
Mais il y en a pas mal qui ont signé. Oui.
Judith, le spectacle porte un nom un petit peu surprenant, en tout cas qui n'est pas français, qui est Conquest. Pourquoi Conquest ?
Parce qu'au début, le spectacle s'appelait DEDH. Et
DEDH, donc Déclaration universelle des droits de l'homme.
Voilà, une abréviation. Et sur une affiche, spectacle DEDH, ça ne voulait rien dire. C'est-à-dire que ça, les gens ne connaissent pas, je dirais, ce petit bout DEDH. Ils ne savent pas quoi faire avec. Donc du coup, on s'était dit qu'il fallait trouver un nom un peu plus... Enfin, qui était un peu plus porteur du projet, et est arrivé Conquête, à la conquête des droits de l'homme, Conquest en anglais, Et je laisse peut-être la parole à Stéphane parce qu'il pourrait nous en dire un peu plus.
D'accord.
Oui, c'est un nom qui percute, hein, Conquest, c'est vraiment, c'est court, donc il n'y a pas besoin de... Enfin, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose à conquérir dessous, et c'était un peu l'idée. Voilà, quand les gens lisent bah, Conquest, qu'est-ce que c'est ? Ça pose aussi une interrogation, un spectacle musical, c'est une création. Donc, ils n'ont jamais vu ça nulle part, et c'était l'idée d'attirer l'œil, quoi, d'attirer la curiosité.
Ça fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Claude, sur effectivement le fait que, oui, ben, y a toujours des humains qui doivent toujours conquérir la fameuse théorie des droits de l'homme.
Voilà, et c'est ce qu'on fait avec ce spectacle, parce qu'on l'a diffusé aussi bien dans les écoles élémentaires, ça touche les familles, les collégiens, et puis des musiciens d'orchestre d'harmonie municipale, comme ici, ou alors à Alvar, ou des musiciens de l'orchestre symphonique, qui nous a accompagnés sur certains projets, voilà. On a touché beaucoup de monde, et les gens, justement, s'interrogent. Et en fait, dans tous nos spectacles, ils repartent avec un programme avec les 30 articles. Donc, ce qui fait qu'après, ils peuvent s'y approprier, les lire, et voilà, et travailler dessus.
S'en imprégner
et découvrir finalement ce qu'ils sont, parce que la plupart des gens ne le connaissent pas.
Oui.
Voilà. Et nous-mêmes, hein, avant que Stéphane se lance dans ce projet, on ne connaissait pas non plus.
Voilà. En fait, la musique, c'est un grand vecteur d'émotions, c'est un grand vecteur de messages aussi. Et donc, c'était vraiment un très bon moyen de faire passer le message universel que porte cette déclaration. Mmh. Et c'était très... ça donnait des frissons de voir les enfants chanter ces articles, quoi. Donc vraiment...
Oui, c'est les approprier.
C'était une grande émotion.
Découvrir et s'approprier des articles et leur signification, surtout. Alors, 30 articles, D'accord. Comment est-ce que vous avez réussi à décliner un spectacle sur ces 30 articles ?
Qui c'est qui veut répondre ?
Qui c'est qui s'y colle ?
Bah, ça serait plus le compositeur.
Parce c'est que moi, alors.
Il a voulu une certaine variété dans les styles musicaux.
Donc, 30 articles. Voilà. Alors, j'avais dans l'idée de faire quelque chose qui ne soit pas de l'opéra, pas de la comédie musicale, pas de l'opérette, mais qui soit une sorte de mélange de tout ça, un univers qui brasse ces trois concepts. Donc j'ai découpé les 30 articles en 3 x 10, donc ce qui m'a permis de créer trois tableaux, en fait. Voilà. Et sur chacun des tableaux, je voulais y amener une atmosphère musicale aussi un petit peu différente, et musicale, et vocale, et rythmique également, parce qu'il y a la partie... percussive est très importante dans le spectacle. Et donc, je voulais que l'auditeur voyage dans des ambiances musicales très diverses, allant du classique, du romantisme, du jazz, du gospel, du blues, de la pop, voilà, toutes les ambiances qui pouvaient se marier entre elles. La polyphonie, et c'est pour ça que dedans il y a des airs solistes avec des voix lyriques, donc des voix d'opéra, il y a des airs plutôt avec des voix légères, pas forcément travaillées, mais des voix plutôt de variété. Et donc tout ce petit monde voyage pendant une heure et demie de spectacle dans ces différentes ambiances.
Avec plusieurs scènes, hein, je crois, qui...
Plusieurs tableaux.
Plusieurs
donc,
tableaux,
à chaque fois,
voilà.
Chaque article, des mises en scène différentes... des couleurs aussi différentes, hein, des couleurs, je veux dire, vraiment des lumières différentes. On change de vêtements aussi en cours de spectacle. Il y a des ouvertures aussi sur chacun des tableaux qui permettent de rentrer dans des ambiances différentes, donc d'annoncer les ambiances différentes. Voilà, donc un spectacle qui, on peut dire, est assez haut en couleurs.
Alors, je reprends le terme de couleur, puisque Judith, qui est professeure de chant, soulignait tout à l'heure en off que sur le plan technique, il a fallu travailler sur différentes façons de chanter, avec des interprétations également différentes, y compris une version franco-arabo-andalouse. Est-ce que vous pouvez développer, Judith ?
Comme les déclarations de droits de l'homme sont déjà traduites en différentes langues, donc on peut déjà les trouver en espagnol, en anglais, et puis plein d'autres langues. Je ne sais pas en marocain si ça existait déjà. Si, donc ça existait déjà. Et on a la chance de connaître quelqu'un qui, donc, qui est marocain d'origine et qui a relever, je dirais, le défi de venir le chanter en arabe. Et en même temps, c'est devenu un duo avec l'alto, avec l'alto donc de la compagnie vocale. Et ensemble, ils portent donc un des articles sur scène. Donc il y a Younes qui fait son parti en marocain et Perrine qui lui répond en français. Donc du coup, il y a la traduction en même temps et c'est un très très beau moment dans le spectacle. Le tout accompagné par, ça dépend si on a l'orchestre ou pas, mais en tout cas il y a un oud qui est une sorte de, je dirais, lyre, guitare marocaine. Et ça donne vraiment une couleur très spécifique à cet article-là. Voilà.
Vous me parliez aussi tout à l'heure de couleurs vocales, c'est ça ?
Oui, on a la chance d'avoir dans ce spectacle des un peu toutes sortes de voix. On a des voix qui sont donc des voix très lyriques. On a une soprano, mezzo-soprane, qui a une voix très lyrique. Et puis il y a les chœurs qui ont des voix plutôt non travaillées, mais qui donnent une très très jolie couleur aussi, puisque Stéphane a travaillé pendant un an sur la couleur de des morceaux qu'il porte sur scène. Et puis c'est vrai que par exemple dans le genre opérette, on a dans le même spectacle, on a des voix fantaisistes, on a des voix lyriques, on a des voix qui sont pas du tout qui sont assez, je dirais, brutes, assez brutes de coffrage. Et dans notre spectacle à nous, on a un peu cette même variété de différents types de voix et aussi des voix d'enfants.
On va y venir aux enfants. On va en parler. On va en parler. Alors, ce spectacle tourne depuis début 2018 en région Rhône-Alpes avec plusieurs étapes. Alvar, Vars, Saint-Martin-d'Hère, Fontaine, Sassenage. Et c'est Saint-Laurent qui clôt cette tournée 2018 à quelques jours près du véritable anniversaire des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'elle s'est déroulée le 10 décembre 1948.
Voilà, presque à 5 jours près, effectivement, la date d'anniversaire. Donc c'est presque symbolique et c'est très plaisant de présenter le spectacle, de clore en tout cas l'année 2018 en étant très proche de cette date butoir.
C'est le dernier spectacle qui se donnera en 2018. Hein,
c'est le dernier 2018.
Clôt la tournée 2018.
Voilà, on a des dates, on a des réservations, si on peut dire ça, pour 2020 à Mélan, par exemple, et des contacts pour 2019. Mais vraiment, la tournée 2018 se clôt le 15 décembre de cette année. Voilà. Voilà, ici.
Pour les Chartreusains, avis à la population. Dans les choses remarquables par rapport à ce spectacle, vous avez associé plusieurs écoles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé au fil des tournées, cette association avec diverses écoles ?
C'était l'idée vraiment de base hein, de ce projet, c'est-à-dire de démocratiser, de faire connaître à un plus grand nombre possible le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc le contenu de ces 30 articles, et on s'est dit, quoi de plus beau que de présenter ça à des enfants. Donc on a pris contact avec des enseignants d'école élémentaire à Fontaine, à Sassenage, à Vars, entre autres. Et donc ceux qui ont accepté de participer à ce projet ont fait tout un travail courant de l'année 2017 et 2018 sur préparer les enfants à qu'est-ce que véhicule, quels sont tous les messages véhiculés par la déclaration, et puis un travail aussi de chant, donc de voix, de mise en place vocale, de mise en place musicale avec les musiciens. Voilà, donc il y a eu tout un travail en amont. Et donc on a associé 3 écoles élémentaires à Sassenage, on a associé les classes à horaires aménagées du collège Munch à Sassenage, on a associé aussi 2 écoles élémentaires à Saint-Martin-d'Hère avec les classes Ulysse, qui sont des enfants handicapés qui ont énormément travaillé sur la mise en scène, parce qu'il y a aussi cet aspect de mise en scène qui est important, qui a été réalisé par Christine Clémente. On a travaillé avec les CHAM du conservatoire de Fontaine. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Hein. On a l'harmonie de l'école de musique de Saint-Laurent-du-Pont, là, qui nous rejoint.
On en parlera. D'accord. C'est la prochaine question. Judith, vous parliez tout à l'heure des voix d'enfants. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter pour la professeure de chant que vous êtes, ces voix d'enfants? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, au-delà des voix ou de la couleur vocale, on dirait, ces enfants par rapport à ces 30 articles de la Déclaration des droits de l'homme, comment ils ont réagi? Est-ce que c'était quelque chose de connu, d'inconnu pour eux?
Les enfants ont entendu parler de Amnesty International. Donc ça, ils connaissent, mais c'est vrai que quand on leur parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non, ils connaissaient pas. Donc ils ont connu ces 30 articles par cette œuvre. Et pour ma part, parce que justement, je suis prof de chant, donc je travaille beaucoup avec des enfants, mais les enfants qui ont participé à Conquest, ces enfants-là, je m'en suis pas occupée. Donc c'était des collègues, et c'était pour moi très très chouette de voir pour une fois, je dirais, à l'extérieur.
Oui.
Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'émotion.
Oui.
Bon, il y a aussi des collègues des gens qui étaient sur scène avec nous qui étaient, mais oh là là, mais qu'est-ce que les enfants sont bruyants, qu'est-ce qu'ils bougent dans tous les sens. Et moi qui suis dans le métier, je les trouvais adorables, je les ai trouvés très sages, justement. Oui. Donc c'est vrai que je les ai trouvés très... Très attentif et vraiment à 100%, même à impliqué. 200%, très impliqué. Mmh. Et pour moi, ça a été vraiment, quand je les ai vus pour la première fois et entendus pour la première fois, c'était très, très prenant. Non, même en tant que...
En tant que prof, oui.
Oui, tout à fait. Parce que...
Donc, il y a cette partie artistique et sur la teneur même de ces 30 articles, est-ce qu'ils se sont interrogés? Est-ce que ça les a fait réagir? Alors, c'est Claude qui peut nous répondre là-dessus, peut-être?
Ben oui, on a eu des anecdotes d'enseignants, aussi bien en école élémentaire qu'en collège. Notamment, c'est le collège Fleming à Sassenage, où là, il y a une collègue prof de musique. Elles sont deux profs de musique et il y a un atelier choral avec les élèves. Et qui disait, ben, c'est marrant, ils s'approprient les chansons et les articles, du coup. Il est pas rare de les entendre chanter dans la cour, dans les couloirs. On les entend chanter comme ça, les articles de la DUDH, voilà, ils se les approprient. Et ben là, on dit, ben, on a accompli notre mission, parce que du coup, la déclaration rentre dans les familles. Parce qu'après, les familles viennent écouter le spectacle aussi. Et pourquoi pas, peut-être que les enfants l'apprennent chez eux, enfin, les reprennent chez eux aussi. Voilà, et donc forcément, ça interroge, mais c'est quoi
Voir les oppose à leurs parents.
En tout cas, ils pourquoi connaissent pas. Par cœur.
Voilà.
Par cœur, il y a là.
Voilà, pour les chanter, ils les ont appris par cœur. Ouais.
Très bien. Alors justement, à Saint-Laurent, Stéphane a un peu vendu la mèche.
Il fait taper sur les doigts.
C'est un scoop. Alors Saint-Laurent, ce ne sera pas les écoles locales, mais par contre, le partenariat qui s'est dessiné l'a été avec l'école de musique. Mm-hmm. Alors est-ce que vous pouvez nous annoncer ce qui nous attend?
Donc on aura, sous la direction de Laurent Nicole, une quinzaine de musiciens de l'harmonie qui viendront nous rejoindre pour ce concert. Donc ça a demandé d'écrire encore quelque chose de différent, enfin de réarranger encore de façon différente, parce qu'entre l'orchestre symphonique où il y a des violons, des violoncelles, donc des cordes, et puis là où il n'y a qu'un orchestre d'harmonie avec des bois, des cuivres, l'ambiance sonore, la puissance que ça peut dégager un orchestre d'harmonie, donc a nécessité une réécriture et un réarrangement des choses, et on a déjà commencé à répéter, et les premières répétitions sont très, très prometteuses. Je ne veux pas trop dévoiler, parce qu'il faut que les gens viennent voir quand même ce qui va en être.
Ah, d'accord. Elles sont prometteuses, mais n'en parlez à personne. Malgré tout, le spectacle a rencontré un vif succès, puisque vous avez eu l'occasion de jouer à guichet fermé à deux reprises. Dites-nous tout. À Fontaine, je crois. C'est Judith qui a vendu la mèche.
Fontaine, oui.
Donc Fontaine.
À la source.
Oui.
D'ailleurs, à chaque fois qu'on est à la source, on joue guichet fermé.
D'accord. Oui. C'est quoi? C'est votre réputation ou c'est le spectacle, là?
Je ne sais pas.
Oh, c'est notre pays, c'est un peu comme ça.
mais je crois qu'à Sassenage, on a fait deux soirs pleins aussi dans le gymnase.
Oui, oui, oui.
Donc, quatre guichets fermés, alors.
Oui, je crois. Hein.
Ah, vous êtes modeste. Espérons qu'on en fasse autant à Saint-Laurent.
Ah ben, c'est sûr.
On y c'est compte sûr. Bien.
Ah oui, ça va être le cas.
On y travaille.
Oui, Judith.
Ce qui est très intéressant de dire, c'est qu'à chaque fois, les concerts sont déclinés sous d'autres formes. Donc, on a eu avec orchestre, on a eu juste avec une petite formation, on a eu avec des enfants, sans des enfants. Et là, ce sera la première fois qu'on le fera avec une harmonie.
Donc en clair, chaque concert est unique.
Est unique, absolument. Oui, exactement. Nous, on est les mêmes. on est toujours là.
Oui.
Mais voilà, donc ça, c'est très intéressant, même pour nous. Ça nous donne des fois, il y a des sacrées surprises, puisqu'on a l'habitude d'entendre certaines notes, et puis d'un seul coup, ah, mais non, il n'y en a plus.
Ah, c'est vrai qu'on est dans la version Saint Laurent. Voilà. Voilà.
Donc, il faudrait se réadapter à chaque fois qu'on est sur scène, et c'est bon, pour nous, c'est très...
sportif.
Oui, c'est assez sportif. Oui, tout à fait.
Alors, pour dépasser un petit peu les frontières de Rhône-Alpes et de la France, vous auriez peut-être des possibilités de jouer au national ou à l'international, m'avez-vous dit, Stéphane?
On a eu un contact avec monsieur Jean Ziegler.
Rappelez-nous qui est Jean Ziegler.
Donc, qui est quelqu'un d'un certain âge, mais qui œuvre énormément dans le monde entier, au sein de l'ONU, donc pour faire respecter les droits de l'homme, et puis aussi qui lutte contre les problèmes de faim. Et donc, il nous a répondu en trouvant que l'idée du spectacle était quelque chose de très bien et qu'il allait essayer de nous soutenir comme il le pouvait. Donc, d'avoir quelqu'un comme Jean Ziegler qui nous répond comme ça très rapidement, c'est très stimulant pour nous.
Ça pourrait laisser augurer de possibilités de jouer ce spectacle, voilà. Peut-être hors des frontières.
On l'espère.
Et aller porter la bonne parole.
Merci les auditeurs et auditrices de Radio Chartreuse ont des ouvertures à l'international, on est preneurs. Hein.
N'hésitez pas.
S'adresse à Sophie.
Ils peuvent s'adresser à Sophie à Radio Couleur Chartreuse, ils peuvent également s'adresser Chartreuse. Directement à l'association Mosaïque sur Fontaine.
Oui.
Voilà. Plus localement, vous avez reçu le premier prix de la citoyenneté 2018 Grenoble-Alpes-Métropole. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et ça nous amène à poser une question un peu moins romantique, mais néanmoins nécessaire, sur les fonds, les subventions qui vous ont permis de mener ce spectacle.
Voilà, absolument. C'est vrai que quand on a eu ce projet... On s'est dit, pour le mettre en œuvre avec un symphonique, avec la compagnie vocale, ses 30 choristes, voilà, et tout ce monde-là, ça va demander des moyens énormes. Donc, on a un peu frappé à toutes les portes, hein, la région, le département, même nationalement. On disait à la présidence de la République, on a eu deux fois une réponse de Brigitte Macron, bon, qui a botté en touche, hein, faut bien le dire. Elle nous a renvoyé sur le préfet. Bon, ça n'a rien porté, mais au niveau local, au niveau de la métropole grenobloise, parce que c'est vrai que c'est surtout là qu'est issu le projet, et on a touché beaucoup de monde. On a eu une bonne écoute, mais c'est bien, c'est démocratique. Donc, il y a plusieurs personnes qui propose des projets qui impliquent la population de la métropole. Et il y a une sélection qui est faite. Et au final, il y a trois projets qui sont retenus et soumis au vote de la population, des habitants de la métropole. Et donc, c'est nous qui l'avons remporté. Donc, il y a une remise de prix avec, bien sûr, un chèque. Voilà, mais c'était pas gratuit. C'est pas juste donné comme ça, en fait. Hein. Voilà, il faut vraiment qu'on le défende, le projet. Et il y a une députée qui a assisté à la remise des prix avec les enfants de l'école d'Épi de Sastage qui ont chanté. Et c'était émouvant, à ce qui paraît. Voilà, moi, j'y étais pas, mais beaucoup de représentants de la compagnie vocale et du groupe Mosaïque ont participé. Les enfants ont chanté. Et les gens qui étaient... présents ont été émus et donc ils n'ont pas été regrettés de nous aider dans ce projet-là. Et on a eu bien sûr un chèque qui nous a permis de monter ce spectacle à Sassenage. À côté de ça, il y a même les établissements participants, par exemple à Sassenage. L'école a fait une vente de fromage auprès des familles, voilà, au moment de Noël, enfin voilà, du Beaufort, ils avaient
super.
Des...
Beaufort d'Alpage, j'espère.
Voilà, qui est en fait même moins cher que vos tarifs auxquels on trouve dans grande surface.
Coopérative.
Voilà, donc ça, les gens ne sont pas privés, ça a rayonné, ils gratifiaient d'ailleurs les meilleurs vendeurs à partir de 10 kilos, voilà, donc ça leur a rapporté pas mal d'argent et ça a permis comme ça de boucler la boucle, parce que même pour eux, ça leur demandait pas mal de moyens. On a fait 3 jours à Sassenage quand même, avec différentes écoles élémentaires et aussi le collège. Et voilà, on a rempli 2 soirs. Et ça a été un beau projet. Donc voilà, il faut aller à la pêche. Sur les premiers prospectus, on voit qu'il y a eu des partenaires, des institutions, mais aussi pas mal de privés. Hein. Voilà, il y a pas mal de logos. On a comme ça, qu'est-ce qu'on a, une vingtaine de logos sur notre première affiche. Et c'est l'affiche qui a été faite avant la création, qui a été à Alvar. Hein. Voilà.
D'accord.
Donc c'était beau d'avoir tout ça dès le départ.
Merci Claude.
Je vous en prie.
Pour finir, alors, on l'a évoqué, on le développera dans un second opus avec Damien Brochier de la Compagnie Vocale. Mm-hmm. Ce spectacle s'est monté en partenariat avec l'association de la Compagnie Vocale. Des deux côtés, vous êtes des associations, donc il y a une grande partie des participants qui sont des bénévoles. Vous avez également associé des professionnels, tant au niveau musical que vocal. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois du travail des deux associations, la partie musicale, la partie chant par la Compagnie Vocale, et le mix des professionnels et des bénévoles des deux côtés également? Et c'est à nouveau Claude qui va développer.
Voilà, en fait, c'est moi qui suis l'entremetteur entre les deux, parce que je participe aux activités des deux, aussi bien de Mosaïque que de la Compagnie Vocale. Et il se trouve qu'avec la Compagnie Vocale, on a monté des projets événementiels. On a d'ailleurs fait deux à Saint-Laurent-du-Pont. Je pense qu'ils étaient à guichet fermé. Hein. C'était, vous en avez vu, vous m'avez dit.
Oui, j'avais vu Stone, effectivement. C'était peut-être pas guichet fermé, mais ça n'en était pas loin.
Je voilà, c'est Stone était... d'après Starmania, voilà. Et puis aussi Goldman Ensemble.
Oui.
La Compagnie Vocale a été éclairée avec un projet événementiel qui était la réharmonisation du spectacle Les Misérables, d'après mm-hmm. Victor Hugo. Voilà, donc des projets événementiels avec finalement des fous à la tête pour monter des choses pareilles, parce que ça demande énormément de moyens. Et puis pour des amateurs, voilà, ce sont des amateurs qui participent, d'arriver à avoir une qualité professionnelle, c'est quand même une gageure, c'est fou. Et de l'autre côté, pareil avec Stéphane et Mosaïque, qui avaient réussi à faire déjà des événements, notamment un Coyeur Tour avec des œuvres, enfin plusieurs Coyeur Tours, hein, enfin on en a monté plusieurs, avec des chœurs qui chantaient des morceaux du groupe Mosaïque, voilà. Donc je connaissais ces deux fous là, le président Damien Brochier et Stéphane Réfugi. Quand il a eu ce projet-là, il m'a dit il me faut un orchestre symphonique, il me faut un grand chœur. J'ai dit ben pourquoi pas les rassembler, enfin le grand chœur notamment et Stéphane. Du coup Stéphane, le compositeur lui-même, a fait travailler la Compagnie Vocale, ce qui a été très enrichissant pour tous ces amateurs, ces chanteurs, parce qu'en plus, là, c'était une première pour la Compagnie Vocale. C'était une œuvre qui n'existait pas, qui a été créée de toutes pièces, et voire adaptée pour la Compagnie Vocale. Stéphane a retravaillé l'œuvre en leur direction, pour les gens, certains solistes de la Compagnie Vocale. Tout à l'heure, Judith parlait d'une alto qui chante un article avec Younes. Ben voilà, ça a été adapté pour eux, donc c'était intéressant.
Et la partie mixité bénévole et professionnelle, comment ça s'est goupillé, cette partie-là?
Comment dire, ben très bien, parce que chez les chanteurs, les professionnels sont plutôt des chanteurs lyriques, donc ils amènent une couleur d'opéra, et ça pour les chœurs amateurs c'est un peu nouveau, ils ont jamais eu l'occasion d'entendre des chanteurs d'opéra chanter comme ça, notamment Judith est d'ailleurs une merveilleuse soprano déjà, et puis elle parlait tout à l'heure de la mezzo qui a une voix grave, d'habitude c'est plutôt des rôles sombres et tout. Je ne sais pas si on peut dévoiler son rôle là dans ce projet. Elle représente l'ONU. Voilà. Donc c'est une voix grave de chant lyrique. Et donc elle est vraiment bien dans son rôle. Elle est drapée de bleu avec le drapeau de l'ONU. Voilà. Puis il y a des jeux de fées avec ce drapeau-là. Des petits comme des grands, il y a un drapeau énorme, j'espère qu'on arrivera à le déployer à Saint-Laurent-du-Pont, qui n'est pas une salle de spectacle, mais on va tout faire pour y arriver. On a un montage à jour J, et ça aussi, c'est une gageure technique, j'espère qu'on y arrivera. Souvent, les grands spectacles événementiels comme ça, on les monte à J-1 ou J-2, là c'est une salle non équipée, on va essayer de tout monter le jour même, et de faire rassembler les acteurs, mais on devrait y arriver, quoi. Voilà, on l'a déjà eu fait. Voilà, j'espère qu'on devrait y arriver, quoi. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. On vous remercie mm-hmm. tous les trois pour votre participation.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Radio Couleur Chartreuse. Merci Sophie.
Et on vous dit à très bientôt.
Avec plaisir. Au 15 décembre.
de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Damien Brochier, le président de la compagnie vocale, les chanteurs du spectacle, nous explique comment il a vécu cette nouvelle expérience. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter votre association de la compagnie vocale ?
Oui, avec plaisir. La compagnie vocale, c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative d'un projet qu'on a monté à l'époque avec notre chef de chœur, et on voulait monter la comédie musicale Les Misérables. Donc on a constitué une compagnie, un groupe de choristes qu'on a recruté sur audition, et on s'est associé les services de professionnels au niveau de la mise en scène des musiciens, du décor, des costumes, comme des gens comme Benoît Kopnaïev, comme Bruno Caillot, qui sont des professionnels du théâtre. Et avec toute cette équipe-là un peu prestigieuse, on a rempli le pari fou de monter une adaptation de la comédie musicale Les Misérables avec tous les personnages des Misérables, Cosette, Gavroche, Maître Thénardier et son épouse, Javert, etc. On a tourné ce spectacle pendant presque 2 ans. On a fait à peu près 12 000 spectateurs sur une vingtaine de représentations dans toute la région Rhône-Alpes. On est allé le présenter à Belley, à l'Intégrale, une salle de 900 places. On a terminé notre tournée au Grand Angle à Voiron. Une très, très grosse aventure. Après Les Misérables, on a continué sur cette lancée-là pour monter un spectacle complètement différent sur Jean-Jacques Goldman. Il nous a beaucoup plu ce spectacle. On a reçu d'ailleurs les encouragements de Jean-Jacques Goldman. J'ai un petit écrit de sa part à la maison que je garde précieusement. Et on a, pour ce spectacle, bénéficié d'une captation vidéo par un producteur qui a acheté le spectacle pour le diffuser sur les télés du câble. Donc en complément de notre tournée, on a été diffusé sur Télé 8 Mont-Blanc, Télé Nantes pendant à peu près 12 mois, Télé Grenoble bien sûr, en partenariat avec Télé Grenoble. Donc on était aussi très fiers de cette opération-là, toujours avec la même équipe, le même principe, des choristes amateurs et un environnement professionnel au niveau des musiciens et de la mise en scène. Ensuite, on a continué en montant le spectacle Stone, adaptation de Starmania, qui tourne encore en version à 12-15 choristes. Voilà pour l'activité pendant ces 5 années de la compagnie vocale. Alors, c'est tout le temps la même organisation, des répétitions qu'on fait une fois par semaine, des répétitions qu'on mène également un week-end par mois pour faire notamment la mise en scène. La création de la mise en scène, c'est Christine Clément depuis les 3 derniers spectacles, et on est très fiers de travailler avec elle. Et donc, voilà, on associe tout ce travail de répétition vocale, de mise en scène, de chanter-bouger. Hein, c'est vraiment un élément important pour la compagnie vocale. On n'a pas de partition, on n'a pas de chef de chœur sur le spectacle. Et grâce à toute cette organisation-là, on monte des spectacles de niveau quasiment semi-professionnel grâce à notre équipe de pros.
Alors, on sent la passion et l'ardeur dans la voix de Damien, qui est difficile à arrêter et à canaliser. Je vais essayer de m'y glisser quand même entre 2 phrases. Donc, la compagnie vocale, elle se nourrit de projets. Et le dernier en date, c'est celui qui vous a été proposé par Stéphane Refugi de l'association Mosaïque sur les droits de l'homme et qui a donné naissance au spectacle Conquest.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui ?
Alors, Stéphane Refugi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant le spectacle Conquest. Par contre, on avait un ami en commun qui s'appelle Dougie, Claude Belmulde, qui est bassiste dans le groupe Mosaïque du Monde, le groupe de Stéphane Refugi, et qui en même temps est bassiste à la compagnie vocale. Donc, il jouait de 2 côtés. Puis un jour, Dougie est venu me voir en me disant « Damien, je crois que j'ai un truc énorme pour toi, tu vas adorer. J'ai mon chef d'orchestre de la Mosaïque vocale qui est en train de composer un spectacle complet sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il est en train de mettre en musique. Et moi qui suis fonctionnaire territorial depuis le début de ma carrière, quand on me parle droits de l'homme, ça me touche parce que ce sont des textes fondateurs. Et le fait de joindre mon côté professionnel avec ma passion du chant choral et de la comédie musicale, de la mise en scène, j'ai tout de suite adhéré à l'idée et j'ai dit à Dougie, il faut absolument que tu me présentes ce monsieur. Il faut qu'on se rencontre parce que je peux lui apporter ce qu'il attend d'une mise en scène et lui peut m'apporter un spectacle assez hallucinant et très original. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés une première fois chez Stéphane Refugi. On a déjeuné ensemble un jour à midi avec mon épouse et la sienne pour commencer à parler de l'idée qu'on pourrait se faire de ce spectacle-là. Et c'est comme ça qu'on est parti à dire, c'est bon, on y va, on fonce. Donc j'ai proposé le spectacle à mon cœur de la compagnie vocale, à mon conseil d'administration et au cœur de la compagnie vocale pour savoir s'ils étaient partants, parce que sans eux, je ne peux rien faire. Et en même temps, on leur apportait un projet sur lequel je leur proposais de chanter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au début, c'était un peu glacial. Parce que ce n'est pas du Goldman, ce n'est pas du Johnny, ce n'est pas du Balavoine.
Ce n'est pas swing.
Donc il a fallu toute ma passion et mon envie de monter ce spectacle pour les convaincre de venir dans cette aventure avec moi et de lancer les répétitions, de trouver un chef de chœur. Alors il était tout trouvé parce que Stéphane Réfugié a bien voulu être notre chef de chœur. Et ce qui était passionnant dans cette aventure-là, c'est qu'on avait le créateur de l'écriture musicale avec nous. Donc entre ce qu'il a écrit, ce qu'on interprétait, et le résultat qu'il en voulait, on a créé avec lui tout au long du spectacle, tout au long de ses répétitions, il y a des choses qui ont changé, des choses qu'on a apportées en plus. Il y a le chœur qui lui a donné des idées pour lui expliquer que bah là, ce serait sympa d'avoir du chœur. Alors il avait son côté de technicien musical qu'on n'a pas nous, mais il entendait ce qu'on voulait lui dire. Et toute cette création s'est vraiment faite en commun pendant ces 18 mois de répétition.
Alors, 18 mois de répétition avec des difficultés à surmonter, et notamment sur le plan technique, il y avait un enjeu majeur à ce spectacle, à savoir transformer des textes réglementaires, articles 1, 2, 3, il y en a 30 quand même, en chansons avec des ambiances musicales différentes. Alors, comment est-ce que vous avez surmonté ça ?
Alors là, je tire mon chapeau à Stéphane Réfugié, qui, dans sa qualité de chef d'orchestre, de compositeur, comme je dis tout le temps, il a écrit un truc, c'est une bombe atomique, quoi. C'est quelque chose qui devrait pouvoir monter à Paris. C'est un spectacle assez hallucinant et d'imaginer que l'on chante des textes réglementaires avec des ambiances musicales de tout type, hein. Il y a du swing, il y a de la salsa, il y a du jazz, il y a des chants qui sont beaucoup plus graves, hein. L'entrée du spectacle est vraiment très grave. On est sortir de la guerre et on affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Donc on est vraiment sur quelque chose de très grave. Et puis à la fin du spectacle, on célèbre l'éducation, on célèbre le mariage, on célèbre les congés payés et tout ça dans des ambiances musicales qui font que ça passe très très bien. On a peur de tomber sur un spectacle qui peut être lancinant, qui peut être triste, qui peut être lourd. Non, absolument pas. C'est vraiment un spectacle qui monte crescendo dans une ambiance et qui finit par un thème du style Boléro de Ravel qui me laisse à chaque fois scotché, pantois. C'est vraiment très, très impressionnant. Et il a fait une performance musicale qui était assez, assez incroyable. Et la difficulté pour nous, c'était justement de caler des paroles sur une musique, mais des paroles qui n'étaient pas des paroles de chanson. Donc ça a été compliqué au départ d'avoir des césures de mots qui ne sont pas celles d'un poème, parce que la plupart du temps, quand on écrit une chanson, on écrit un poème et on met de la musique dessus. Là, il y avait déjà des choses écrites qui sont réglementaires et sur lesquelles il fallait mettre de la musique. Et les césures et l'organisation ont été faites de façon assez hallucinante. Alors, il ne faut pas venir au spectacle pour comprendre complètement tout ce qui se chante, parce que les césures des mots sont assez particulières quelquefois, et c'est pour ça qu'on vous remet le programme. Quand vous rentrez dans la salle, on vous remet un programme avec les 30 articles écrits, qui sont écrits. Voilà. Donc vous ne pouvez pas forcément les lire ou les entendre correctement pendant tout spectacle. Mais quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir les relire et comprendre encore une fois supplémentaire tout ce qu'on a voulu interpréter dans ce spectacle.
Voir les infuser, les réfléchir, les méditer.
Parce que c'est d'actualité. Oui.
Voilà, c'est toujours d'actualité. Vous avez également dû travailler la mise en scène de ce spectacle qui est le propre de la compagnie vocale. Vous ne faites pas que chanter, on l'a vu dans les précédents spectacles que vous nous avez offerts. Vous avez une présence sur scène et comment vous avez transformé ça pour ce spectacle de Conquest?
On a notre reine de la mise en scène qui s'appelle Christine Clémente, qui depuis 3 ans nous monte des mises en scène assez hallucinantes. Alors elle est amateur, hein, elle est kiné de profession, mais elle se passionne dans l'organisation de groupes comme ça et dans la mise en scène. Alors je ne connais pas trop ses origines, sa culture, même si je la connais très bien depuis maintenant 5-6 ans. Elle a joué avec nous sur Les Misérables, mais elle a toujours des idées qui sont hallucinantes. Et là, le challenge, le défi de pouvoir nous faire bouger en racontant des choses qui sont illustrées par des costumes, par des ambiances, par des drapeaux. Il y a 49 drapeaux sur le spectacle. Il y a un drapeau qui fait 12 mètres par 8, ce qui est assez impressionnant. Les drapeaux, on les présente, mais on s'habille avec, on les utilise pour des célébrations. Il y a vraiment plein d'organisations scéniques qui sont vraiment très, très impressionnantes et qui font que le spectacle, on ne le voit pas passer parce qu'on vous raconte cette histoire. On vous raconte cette histoire des droits de l'homme tout au long du spectacle.
C'est vivant.
Oui, complètement.
Alors, vous êtes parti en tournée avec ce spectacle tout au long de l'année 2018 dans diverses villes de la région Rhône-Alpes. La dernière de l'année aura lieu à Saint-Laurent, à quelques jours de la date exacte des 70 ans. Alors, question bête, mais pourquoi Saint-Laurent et comment les élus locaux ont-ils réagi à l'avènement de cet événement, c'est le cas de le dire.
Alors, d'abord, pour la tournée 2018, j'en profite à remercier les choristes de la compagnie vocale parce que franchement, il y a eu des semaines où ils ont dû me maudire. Il y a eu des semaines de préparation, de répétition qui nous ont occupés le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir pour une représentation le vendredi et le samedi. Donc on était sur, après le boulot, vite partir au spectacle pour s'habiller, se décorer, se costumer et se maquiller et être prêt pour ces représentations. Ça a été le cas à l'Orbleu à Saint-Martin-d'Hères, ça a été le cas avec le Théâtre en Rond à Sassenage. Ça a été toute l'année comme ça. On a eu un premier semestre assez hallucinant au niveau de la mobilisation. Ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été là et franchement, je suis fier d'eux. Pourquoi Saint-Laurent-du-Pont ? Ben, bien sûr, j'ai laissé la primeur de la date anniversaire de cette tournée à Saint-Laurent-du-Pont parce que je suis Laurentinois. Je suis Laurentinois, je suis de la vallée du Guié. J'ai été secrétaire de mairie à Entre-le-Guié pendant 25 ans. Donc tout ça, c'est un peu mon pays d'attache.
Ton berceau ?
Mon berceau, oui, un peu. Alors, quoique je suis plutôt né sur la région grenobloise, mais depuis que j'ai 18 ans, j'ai joué au basket ici. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche de pouvoir ramener cet événement et faire de la culture, de l'événementiel, de qualité à Saint-Laurent-du-Pont. Parce que je pense que franchement, sur les 10 dernières années, je ne sais pas s'il y a un spectacle de ce niveau-là qui est arrivé à Saint-Laurent-du-Pont, parce que là, c'est vraiment du très, très haut niveau.
Il y a eu Stone,
il y a eu Jean-Jacques Goldman, mais là, c'est vrai que sur la thématique, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel.
Très bien. Les Laurentinois seront honorés et j'espère honoreront de leur présence avec les autres chartroussins cette soirée spectacle. Et qu'est-ce que vous a apporté cette belle expérience par rapport à la compagnie vocale, justement, par rapport aux autres expériences que vous avez déjà vécues ?
Ça a été complètement différent. Ça a été une collaboration avec une autre association.
Oui.
Ça a été de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle donc Stéphane Réfugi, qui était adorable tout au long du spectacle, qui a été patient, qui a été clair sur ses consignes, qui savait où il allait, mais qui a été très, très, avec beaucoup d'empathie, nous a organisé dans ce spectacle. Rencontrer des solistes professionnels comme sa femme, Judith Réfugi, qui est professionnelle. Soprane, pardon.
Professeur de chant,
de rencontrer Dominique Dumas, qui est aussi une soliste professionnelle alto, des musiciens qu'on ne connaissait pas. Il y avait les musiciens de la compagnie vocale, mais on a rencontré d'autres musiciens. Et puis, une ambiance, une création, une originalité, une mise en scène avec une thématique différente. Oui, ça nous a apporté énormément. On n'est plus dans la variété telle qu'on l'a chantée jusqu'à présent. Les Misérables, c'était une thématique. Jean-Jacques Goldman, c'était de la variété. Starmania, c'était de la variété. Là, on est rentré dans...
De l'histoire.
De l'histoire, de la symbolique, de la thématique droit de l'homme qui est vraiment impressionnante à raconter, oui. Oui, ça nous a... Humainement parlant, ça nous a beaucoup apporté, oui, complètement.
Vous disiez d'ailleurs vous-même en aparté que vous avez vécu certaines scènes, certains articles, voire tous les articles, comme quelque chose de réellement transcendantal
ah oui, complètement.
Et imprégnant.
Oui, on vit ce qu'on chante. Et quand vous chantez les droits de l'homme, je peux vous dire que vous vivez vraiment ce que vous chantez. Et il y a notamment des passages dont j'ai des souvenirs impressionnants. L'entrée du spectacle avec les enfants des classes U10 de Saint-Martin-d'Air qui nous accompagnaient sur cette fin de guerre mondiale où on a encore les bombardements qui nous tombent dessus. On avait les enfants avec nous, qu'on prenait avec nous. Ils étaient complètement dans ce qu'on jouait. Hein. C'était vraiment très, très impressionnant. L'avant-dernier chant, celui qui ressemble au boléro de Ravel, il est transcendant. Il est vraiment transcendant et on est complètement dans ce qu'on chante et on vous l'apporte comme ça et on l'offre au public qui est en face pour célébrer ensemble ce texte fondateur qui est celui des droits de l'homme dans une ambiance qui monte crescendo et rien que d'en parler ça me fout les frissons quoi. C'est vraiment très très impressionnant.
On pourrait dire que c'est presque un passage de relais au public finalement une fois que vous l'avez chanté, vous avez chanté ces 30 articles, on vous remet, d'ailleurs ils en ont un exemplaire à l'entrée du spectacle. On vous passe le relais.
Tout à fait.
Faites-les vivre.
Tout à fait. Exactement. Et puis vous pouvez les fredonner en plus. Oui. Parce que vous les avez entendus et vous pouvez les fredonner et vous pouvez donc du coup vous les approprier. L'idée c'est de les démocratiser, c'est de les rendre accessibles à tous. Alors qu'on sait très bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme, si peut-être on en a entendu parler une fois à l'école, c'est pas sûr. Et à la télé quelques fois, mais on nous explique pas tout. Là, on les a tous. Et on vous les présente de façon artistique, de façon soignée et de façon très, très prégnante.
Mais le message est profond malgré tout.
Tout à fait.
Et il est réel. D'accord. Et après, donc, quid du spectacle Conquest en 2019, puisque la dernière date, ce sera Saint-Laurent. Et quels autres projets derrière pour la compagnie vocale ?
Alors, pour l'instant, j'ai pas de date supplémentaire de prévue pour ce spectacle, mais j'ai toujours des contacts avec... ici, le Rotary Club sur Lyon, par là, sur Voiron, Amnesty International, la ville de Mélan qui, a priori, est intéressée pour une représentation en 2020. 2020, ça fait un peu loin, donc pour mobiliser les choristes encore jusque-là, il va falloir qu'on trouve d'autres dates,
oui.
Parce que sinon, on a un peu tendance à perdre le fil de l'ambiance de ce spectacle et de l'envie de le jouer. Mais aussi, non, on est en pleine préparation, répétition, pour monter un nouveau spectacle un peu plus variété, qui va s'appeler Paradis Blanc. On a déjà constitué un chœur de 35 choristes qui est déjà au travail. On va chanter les plus grands succès de Daniel Balavoine, de Johnny, de Michel Berger.
Ben oui, Paradis Blanc.
Et de France Gall.
Ben oui,
voilà, Paradis Blanc. Les quatre inséparables. Donc on a un set de chansons qui est vraiment impressionnant, avec une mise en scène de la même façon. Alors Paradis Blanc, ça sera sûrement autour du blanc. Il y aura beaucoup de drapés, il y aura beaucoup d'ambiance... où les éclairages vont éclairer ces drapés blancs. On a déjà des idées de mise en scène comme ça qui vont vraiment rendre ce spectacle vraiment très, très sympa. On a hâte d'y être.
Ça, c'est pour 2020 ?
Alors, début de la tournée 2020, on est déjà accueillis dans quelques salles. Je sais que la Pléiade à Alvar est toujours intéressée par ce qu'on propose. Là, tout à l'heure, j'étais en relation avec l'adjoint de la ville de Rives qui est intéressé aussi. Donc, nos accueils habituels vont sûrement renouveler une tournée qui va faire encore une vingtaine de dates.
Bien. Nous y serons, fidèles.
Oui, on sera à Saint-Laurent-du-Pont, bien sûr.
Eh ben oui, obligé maintenant. Hein. On a pris nos habitudes. On doit être en première ligne. Alors, pour ce spectacle qui aura lieu, nous le rappelons, le 15 décembre prochain à 20h30 à la salle du Revol, la salle des fêtes de Saint-Laurent-du-Pont, est-ce que vous conseillez de réserver les places ? Si oui, par quel moyen ? Est-ce qu'on passe par l'Office du tourisme, par le site internet de la compagnie vocale, par autre chose ?
Comment Alors, ça bien, se sûr, passe bien sûr qu'il est conseillé de réserver ses places, parce que ben, la salle du Revol, elle est grande. C'est bien pour Saint-Laurent-du-Pont, on imagine qu'on pourra accueillir 300 personnes.
Oui.
Donc, la scène est grande. Hein, comme on a, j'ai oublié d'évoquer le fait que le partenariat de Saint-Laurent-du-Pont se faisait avec certains musiciens de l'école de musique de Saint-Laurent-du-Pont. Oui. Nous sommes samedi après-midi et samedi d'après, le 1er et le 8, en répétition avec eux, pour caler donc leur intervention avec nos musiciens et le chœur. Donc, ça fait du monde sur une scène qui va être assez grande, hein, à peu près 45 mètres carrés. Donc, ça prend de la place dans la salle et du coup, ça limite le nombre de places. Mais on espère accueillir à peu près 300 personnes. Et la billetterie est ouverte à l'Office du tourisme de Saint-Laurent-du-Pont. Il y a des billets. Et puis, vous pouvez aller sur le net. Vous allez sur le site Yourplan, Yurplan. Vous tapez Conquest et là, vous pouvez réserver vos places. Et c'est vivement conseillé. Oui, tout à fait.
Parfait, donc ne les ratez pas, soyez présents pour ce spectacle qui promet d'être haut en couleur et en émotion. Et merci Damien de votre témoignage et à bientôt.
Merci, à bientôt et encore merci à Radio Couleur Chartreuse.
Le spectacle Conquest aura donc lieu samedi 15 décembre à 20h30 à la salle du Revol à Saint-Laurent-du-Pont. Et sinon, Bouillon de Chartreuse, c'est terminé. Toute l'équipe vous souhaite une agréable fin de week-end. À très bientôt.